RCFM, c'est votre jour de science. Fabrice Fenouillère, Christophe Zagaï.
Fabrice, bonsoir.
Bonsoir Christophe.
Toujours en pleine forme, je vois.
Et vous aussi.
Nous allons proposer, Fabrice, cette semaine à nos amis auditeurs de faire un saut dans le passé plein de testostérone pour plonger au cœur des arènes romaines et nous retrouver dans la peau de gladiateurs antiques. Et pour nous raconter la vie de ces combattants mythiques, nous recevons le professeur Éric Tessier, historien de l'Antiquité attaché à l'Université de Nîmes et éminent expert des questions de gladiature.
Oui, vous l'avez dit Christophe, aujourd'hui, bien, nous serons tour à tour, ici et de l'autre côté du poste, Rétière, Thrace ou Mirmillon, avec les deux pieds dans la poussière et le sang des arènes romaines pour mieux comprendre qui se cachait derrière les casques à crête, filets et tridents des gladiateurs de l'Antiquité. Comment devenait-on un tel combattant? Était-on forcément un captif condamné à mourir? Quelles règles régissaient ces combats? Voici quelques-unes des questions que l'on va poser, vous l'avez dit, à Éric Tessier, historien de l'Antiquité, maître de conférence à l'Université de Nîmes, un invité également architecte de spectacles historiques, homme de télé, homme de radio, homme de documentaire et auteur de nombreux livres. Je pense notamment à ceux autour des gladiateurs, mais aussi aux biographies de Spartacus, de Pompée ou de Commode qu'il a commis. Et puis il vient surtout de publier cette année son premier roman, on en parlera un peu en fin d'émission, « Napoléon est revenu ».
C'est votre jour de science, l'expert.
Bonsoir Éric Tessier.
Bonsoir.
Non, bonsoir.
Merci très bien. Vous êtes en duplex de Nîmes, des studios de France Bleu Gare Lozère. Éric, qui étaient les gladiateurs? Des hommes qui se battaient pour de l'argent, des esclaves tentant de gagner leur liberté ou des bandits qui, à la place d'être en prison, risquaient leur vie à chaque combat?
Le problème des gladiateurs, justement, c'est que c'est un peu tout ça à la fois, mais le problème aussi, c'est qu'on a une vision qui est faussée, comme souvent, par les péplums hollywoodiens, parce que la gladiature, elle a duré très très longtemps. Les premiers gladiateurs, finalement, ils sont dans l'Iliade, et c'est des guerriers libres, qui viennent honorer donc la mort d'un guerrier, c'est Patrocle, et c'est son ami Achille qui offre des jeux funéraires, et donc c'est absolument pas des esclaves ou des bandits, donc c'est vraiment des combattants grecs qui veulent honorer un mort, puis donc ça va se répandre un peu partout dans le bassin méditerranéen. Ça a passé aux Grecs du sud de l'Italie, de là aux Étrusques et de là aux Romains. Alors c'est vrai que les Romains, eux, ils vont en faire quelque chose, presque une machine de guerre, quoi, de ces gladiateurs. C'est des combats funéraires, donc à la base. Donc à cette époque-là, on est au 3e siècle avant Jésus-Christ, on combat sur le forum, l'amphithéâtre n'existe pas encore. Et c'est pour honorer donc un patricien important. Ça plaît beaucoup aux Romains, donc du coup ils vont multiplier les combattants. Et puis on arrive au 2e siècle avant Jésus-Christ, c'est l'époque où Rome est en train de conquérir le monde. Il y a beaucoup d'esclaves qui reviennent donc sur l'Italie, qui sont parfois des artisans, des gens qui ont un métier, et puis des gens qui savent faire que combattre, quoi, qui sont des combattants. Donc du coup, on va les utiliser pour faire des gladiateurs. Et là, c'est une gladiature d'esclaves, servile. C'est des gens dont on peut pas trop faire grand-chose, sinon les faire mourir dans des mines ou des carrières, ou les faire s'entretuer. Donc ça, c'est la deuxième phase, on va dire, une gladiature qui est de plus en plus spectaculaire, de plus en plus nombreuse. Là, il n'y a pas seulement un ou deux duels, mais on a des centaines de gladiateurs qui peuvent s'affronter. On les met d'ailleurs dans le cirque, un espace très très vaste. Et ça a toujours le caractère politique, puisque c'est un édile, c'est un homme politique qui offre donc ce type de combat. Et le système est tellement, tellement finalement à la fois perfectionné, mais très fragile aussi. C'est que du coup, il est perfectionné parce que ça permet de déstocker des esclaves dont on ne saurait plus trop quoi faire, puisque là, la mort est la seule issue pour le vaincu. Mais derrière, donc, il y en a trop, il y en a de plus en plus, et on tombe avec Spartacus. Et Spartacus, c'est une révolte de gladiateurs, très difficile pour Rome. 2 ans donc de guerre et l'Italie quasiment dévastée, 10 batailles rangées perdues contre les gladiateurs. Spartacus est vaincu, tué, mais on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Soit on abolit la gladiature, c'est pas possible, autant essayer d'abolir le foot aujourd'hui. Soit on se dit, on va changer les choses. Et là, la gladiature commence à devenir professionnelle. C'est des auctorati, des gens qui sont autorisés par un contrat, par un acte légal, passer devant un magistrat. Ils sont autorisés à verser le sang dans le cadre, finalement, d'une école de gladiateurs. On va les entretenir, on va les entraîner, ça va devenir des bêtes de guerre. Mais c'est ça qu'on va chercher chez eux. On va chercher finalement le talent, la technique de combat, on va chercher le courage face à la mort qui devient une possibilité, qui est plus exclusivement donc donnée aux vaincus. Et le public, du coup, aussi a son rôle, puisqu'il va pouvoir essayer d'influencer l'éditeur, celui qui offre ce combat, toujours à peu près pour les mêmes raisons, en tout cas politiques. Il y en a moins, il y a moins de gladiateurs parce qu'ils sont beaucoup plus chers. Mais le public peut dire, voilà, lui, il a bien combattu, j'ai envie qu'on le renvoie vivant. Lui, c'est vraiment, il est vraiment nul, on ne veut plus le revoir, qu'il meure. Donc c'est cet enjeu-là qui est finalement l'apogée de la gladiature. C'est là où on fait les amphithéâtres. On est grosso modo entre la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ et le 3e siècle après Jésus-Christ. Donc on est là vraiment dans une gladiature extrêmement affinée, extrêmement, je dis pas raffinée, parce que c'est quand même des brutes épaisses, il faut bien le dire. Mais quand même avec, surtout, c'est des techniciens, quoi. C'est des techniciens du combat. Il y a des enjeux économiques qui sont énormes, des centaines de millions de sesterces qui sont en jeu là-dedans. Des amphithéâtres, ben là j'enregistre à Nîmes, je suis à 20 mètres de l'amphithéâtre le mieux conservé au monde, celui de Nîmes, et qui a été construit par un notable de la ville pour justement dire, voyez, je vous aime bien, je suis riche, mais très sympathique. Je vous redonne finalement une partie de ma fortune pour faire donc ce grand monument de spectacle dédié aux gladiateurs. Et là, à cette époque-là, c'est plus des Spartacus, hein, c'est plutôt des Zidane. Donc, vous voyez, ça fait. Ils sont très variés, quoi, ces gladiateurs suivant l'époque.
C'est déjà un bonheur avec Christophe. On se regarde et surtout on vous écoute.
On vous écoute attentivement.
C'est un bonheur. On sent là-bas l'historien, mais surtout le conteur. Quel plaisir, Éric Tessier. Justement, vous parliez de Zidane. Hein. C'est vrai qu'on était à cette époque où on offrait ce spectacle comme on peut aujourd'hui regarder un match de foot à la télé. Ça se passait d'ailleurs très régulièrement, où c'était finalement assez rare d'avoir un vrai gros combat de gladiateurs. À cette époque professionnelle, je parle.
Oui, alors c'est à cette époque-là, du coup, ben, il faut toujours faire attention avec l'histoire antique, toujours se poser la question des sources. Les sources, l'essentiel a disparu, faut bien le dire. Ce qui nous reste des sources, ben, c'est les auteurs que les moines ont bien voulu recopier au Moyen-Âge. C'est aussi les inscriptions sur la pierre, le reste a disparu. Alors, évidemment, il y a une surreprésentation des combats où la mort est un enjeu. Parce que là, c'est un homme politique qui offre ses combats avec les meilleurs gladiateurs. Il fait un cartel, hein, un peu comme à la tauromachie. Il choisit les champions du moment et il les propose au public. Ça coûte très cher et donc c'est prestigieux parce qu'en plus, là, la mort est en jeu. Ce que l'on sait aussi par des sources qui sont moins nombreuses parce que c'est moins prestigieux, c'est qu'il y a aussi des combats qui sont à armes mouchetées. C'est comme ça aussi que les gladiateurs tâtent un peu du sable de l'arène. C'est là où ils se font une réputation. Donc là, ils vont pouvoir faire peut-être des dizaines, des centaines de combats. Là, c'est des spectacles qui sont payants, donc c'est comme ça que les gladiateurs se rémunèrent.
Ou la mort n'est pas au bout.
La mort n'est pas au bout. On peut avoir une fracture, on peut avoir quelque chose, mais la mort n'est pas en jeu. Là où c'est vraiment intéressant, c'est peut-être 2-3 fois l'an, peut-être pas plus, hein, dans une ville comme Nîmes ou à Pompéi, où on a un peu plus de renseignements. Quand un édile ou quand un prêtre du culte impérial se dit, c'est mon jour de gloire, je vous offre ça, ça va me coûter très cher, mais aussi ça marque aussi ma popularité. Et donc là, ça a beaucoup de succès parce qu'en plus donc c'est un cadeau, hein, ce qu'on appelle un munus, c'est offert donc par l'édile du moment, c'est-à-dire l'homme politique du moment. Et là, donc, c'est évidemment là où se joue vraiment la carrière. Et d'ailleurs, les gladiateurs, sur leur stèle funéraire, ils meurent pas tous au combat, hein, vont nous donner le nombre de leurs combats, de leurs victoires, de leurs matchs nuls et de leurs défaites. Hein. C'est comme à la boxe. Hein. Et finalement, on a des grands champions qui vont être seulement en moyenne 20-25 combats dans leur carrière. Donc, ça veut dire, mais vrai combat, quoi. Des combats avec des vraies armes.
Des champions qui auraient fait la une de gala, de closer ou de voici aujourd'hui, quoi. Ils étaient vraiment adulé
au point qu'on fait des produits dérivés donc à leur nom, donc ça veut dire qu'ils sont connus. On fait alors il y a ceux qui nous sont parvenus, c'est des lampes à huile, c'est des céramiques, c'est des inscriptions sur les murs aussi, c'est des graffitis de telle rétière qui est le soupir des pucelles à Pompéi, donc ils sont très très finalement appréciés, adulés, et c'est tout le paradoxe du gladiateur de cette époque-là. C'est un Zidane, c'est une sorte de héros, mais en même temps il a un commerce avec la mort, et donc finalement c'est tabou, c'est un peu le rejet, et c'est cette ambiguïté, ce côté un peu bad boys qui fait qu'on apprécie au fond les gladiateurs chez les Romains.
Et là vous avez parlé du rétière, hein. On va justement en seconde partie rentrer un petit peu dans cette typologie des gladiateurs.
C'est votre jour de science, intéresse aux gladiateurs cette semaine, notre invité pour en parler, le professeur Éric Tessier, historien de l'Antiquité attaché à l'Université de Nîmes et éminent expert des questions de gladiature.
France Bleu, RCFM. France Bleu.
Rien ne dure 9 mois, puis rien n'est sûr.
Acné, premier baiser. Combien de temps d'amour à partager? Rien de dur, des passions, des secrets. Ne reste que des regrets. C'est comme ça, on s'y fait. On n'a pas le temps de freiner. Que la Porsche de James Dean s'envole en fumée. À toute allure, beauté, gloire, apogée. Dans cette course effrénée, et ce peu qu'il reste à partager. Tout se meurt avant la vie d'après. Simple mortel, tout change sous le ciel. Ou alors il faudrait pouvoir se réincarner. Quand la Porsche de James Dean s'envole en fumée. S'envole en fumée. Son armure, serment, fidélité, douceur, finissent par une lame dans le cœur. Liberté, censure, dictature opprimée. Aucune guerre mondiale, ni protocole de paix. Ensemble retombé. La Porsche de James Dean s'envole en fumée. S'envole en fumée. Oh. D'ici jusqu'à l'est de l'Éden, l'enfance qu'on se traîne. Freddy, Johnny, Cobain. Même si ça te fait de la peine. En attendant que la lumière s'éteigne, idole, musée, musée. Les bolides en acier, c'est juste pour patienter. Et pour faire des clichés. Quand la Porsche de James Dean s'en va. Leurs blessures. Mais quand tu es contre moi, tout peut encore arriver.
Rien ne dure, Pascal Obispo.
C'est votre jour de science, l'expert.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Coup de projecteur cette semaine sur les gladiateurs, ces combattants dans la Rome antique. Qui étaient-ils? Quels étaient leurs rôles? Nous recevons Fabrice pour en parler. Éric Tessier, historien de l'Antiquité, auteur, maître de conférence à l'Université de Nîmes, passionné d'histoire vivante et d'archéologie expérimentale en duplex de Nîmes, des studios de France Bleu Gare-Lozère. Éric Tessier, quand on entend parler de gladiateurs, on parle notamment de Samnites, de Gaulois, de Thraces, de Provocateurs. C'est quoi la différence? Leurs armes, leurs équipements?
Alors ça, c'est une notion qui est fondamentale, qu'on ne voit jamais dans les films, ou quasiment pas. C'est la notion d'armatura. Alors, armatura, on a souvent traduit ça de manière un peu paresseuse par armure. Et quand on dit armure, on imagine Jeanne d'Arc, du Guesclin, un gars qui est recouvert de ferraille. Ce n'est pas du tout le cas. En fait, il faut passer par le terme grec, c'est panoplia, c'est-à-dire la panoplie. Et comme je dis, la panoplie de Zorro, ben, il n'y a pas l'arc de Robin des Bois dedans. Donc, ça veut dire que c'est des typologies de gladiateurs très précises par rapport donc à leur équipement. Alors, au début, c'est des équipements militaires. On parle justement, la première armatura, c'est le Samnite. C'est un guerrier du sud de l'Italie contre lesquels les Romains ont beaucoup combattu. ils récupèrent leurs armes, ils mettent ça sur le dos d'esclaves à cette époque-là, on est 3e-2e siècle avant Jésus-Christ, et du coup ils vont combattre entre eux, le Samnite contre le Samnite, devant le peuple romain. C'est une façon aussi de commémorer leur victoire, de dire on a vaincu les Samnites, puisque maintenant ils sont obligés de combattre devant nous pour notre plaisir. Après on a le gladiateur gaulois, on a le gladiateur thrace, tout ça c'est des gladiateurs qui sont déjà en place avant Spartacus. Puis après Spartacus, du coup, on va passer une autre gladiature, beaucoup plus professionnelle, beaucoup plus technicienne, et on va créer des types de gladiateurs qui sont véritablement faits pour le combat. Alors certains sont des évolutions, c'est par exemple le provocator, qui est certainement une évolution du samnite. On a le thrace, qui reste en place, mais qui se développe donc en deux types de gladiateurs, le thrace et l'oplomaque. Et puis on a des gladiateurs qui ne sont que gladiateurs. On a le rétien, le fameux rétien, avec son trident, son filet et sa dague. Ça correspond pas du tout à une typologie, à une panoplie militaire quelconque. C'est véritablement un gars qui a été forgé pour le spectacle. Et du coup, il est tellement efficace que les Romains vont avoir du mal à lui trouver véritablement un adversaire. Et on mettra pratiquement 100 ans à le mettre en face de lui, le sécutor qui a un grand bouclier, qui a un casque avec un cimier, une protection faciale très très spéciale, à la fois pour pouvoir se débarrasser du filet et pouvoir éventuellement encaisser un coup de trident dans la figure. C'est vraiment quelque chose qui est très élaboré. Et le rétiaire-sécutor, le couple rétiaire-sécutor, va être le couple phare, on va dire, de la fin du 1er siècle jusqu'au 3e siècle après Jésus-Christ. L'idée aussi, c'est que ces armatois ne se mélangent pas. Le thrace, il va toujours être systématiquement contre un myrmillon. C'est l'opposition des contraires, le grand contre le petit bouclier. Le sécutor sera contre un rétiaire. Le rétiaire ne combattra jamais le thrace parce que avec son tout petit bouclier, il pourrait jamais tenir plus de 2 secondes. Donc ça montre qu'il y a une gladiature qui est beaucoup plus structurée que les combats de brute épaisse extrêmement sanglants qu'on voit dans Gladiator, qui est un film que j'adore, mais où tout ce qu'il y a sur la gladiature est faux dedans. Donc c'est sympa, ça peut permettre de partir sur des bases.
Vous êtes d'autant mieux placé pour en parler, Éric Tessier, que vous organisez vous-même depuis 10 ans. C'est aujourd'hui plus de 30 000 personnes qui viennent assister au grand jeu de Nîmes, où des gladiateurs reproduisent ces gestes d'époque à l'identique. C'est absolument incroyable. S'il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui sont dans le coin en mai, notamment pour les 10 ans cette année, c'est absolument fabuleux. Se pousse le ou baisser, qu'on voit justement dans ces films, c'est une réalité ou complètement faux ?
Ah ben ça fait partie des plus belles idées reçues, on va dire, de l'histoire, puisque c'est un geste qui est universellement connu et que plus ou moins finalement tout le monde rattache au gladiateur, c'est bien ça, le pouce baissé. On le voit dans tous les péplums, mais un manque de chance, ça n'a jamais existé. À l'origine, c'est une mauvaise interprétation d'un texte par un peintre français de l'époque de Napoléon III, du 19e siècle. Ce tableau a inspiré les premiers péplums italiens, qui eux-mêmes ont inspiré les premiers péplums américains. Depuis maintenant, il n'y a pas de bon film de gladiateur sans le pouce retourné. À part que c'est faux, parce que si vous avez, comme à Nîmes par exemple, 24 000 places dans les arènes, si on se met à compter les pouces levés et baissés, on y serait encore, quoi. Parce que donc, il n'y a pas là le boîtier de Jean-Pierre Foucault pour la mort tapée 1, pour la vie tapée 2. Donc on a une autre méthode qui nous est donnée par les textes, c'est-à-dire que chaque Romain a sur lui sa mappa, sa serviette, quoi. C'est un truc très personnel. Et donc quand ils veulent justement la missio, c'est-à-dire le renvoi du gladiateur vaincu, parce qu'on considère qu'il a bien combattu, il a fait le job, on agite le mouchoir, on agite la mappa, et comme ça l'éditeur voit la tendance du public, savoir s'il doit donner donc la mission, le renvoi, ou laisser donc le vaincu être exécuté par son adversaire. Et ça on le refait donc au grand jeu romain, donc encore aujourd'hui, donc tous les ans, au début du mois de mai, donc c'est une grande reconstitution historique, où on est vraiment dans le bain, c'est-à-dire c'est pas des gladiateurs hollywoodien, c'est des gars qui font vraiment de la gladiature tout au long de l'année, c'est des reconstituteurs, font de l'histoire vivante, et du coup, pour qu'il y ait cette interaction avec le public, chaque spectateur reçoit donc à l'entrée donc une serviette en papier qui lui permet justement de donner son avis, et c'est là où on voit finalement que c'est finalement les enfants les plus cruels, parce qu'ils veulent toujours la mort du gladiateur, c'est terrible, on apprend beaucoup de choses sur nous-mêmes. Donc,
et justement, les enfants et les femmes pouvaient assister à ces combats ?
Oui, donc a priori, donc c'était vraiment une représentation inversée de la société, donc l'amphithéâtre, c'est-à-dire que plus on est haut dans la société, plus on est bas dans les gradins, parce qu'on peut mieux voir, et surtout on peut être vu par tout le monde. Et donc plus on monte, ben plus on est dans le bas de la société, c'est-à-dire qu'en haut on va avoir ben des esclaves, des affranchis, des gens pauvres, des femmes aussi, qui peuvent être un peu partout. Donc oui, c'est ouvert à tout le monde. Les enfants sont fascinés par les gladiateurs, on le sait par cet Tacite qui en parle. C'est-à-dire c'est le grand sujet de conversation, je dirais, des cours d'école de l'époque. Les maîtres en parlent avec leurs élèves, un peu, je veux dire, comme aujourd'hui.
Comme les joueurs de foot, hein, vous l'avez dit,
comme les joueurs de foot. Absolument, c'est vraiment ce qu'on peut comparer. Pour que la comparaison soit à peu près valable aussi, il faudrait y rajouter aussi la tauromachie. Dans le sens qu'il y a le même rapport entre la piste et les gradins, un spectacle qui est autour du combat et de la mort éventuellement, c'est quelque chose aussi qui est très très ritualisé, là, la tauromachie. Si on ne connaît pas, on ne comprend pas grand-chose, on n'apprend pas grand-chose. Et c'est vrai que chez les Romains, la gladiature, c'était ça aussi, quoi. C'était toute cette ambiance, et c'était aussi ce rapport très technique au combat, à la mort. Donc il faudrait même y rajouter aussi un aspect religieux, donc qu'on a complètement effacé dans les films, dans l'imaginaire. Donc tout ça fait que la gladiature est un phénomène beaucoup plus complexe que ce que l'on nous montre dans les films. C'est ça qui est intéressant.
Ça durait combien de temps, un combat? Enfin, un combat entre deux gladiateurs, hein, pas ceux qui pouvaient se dérouler tout au long peut-être d'un après-midi ou d'une soirée.
Alors,
comme un combat de boxe, très rapide.
C'est très rapide. Oui, ça serait même plutôt un combat de sumo, quoi. C'est-à-dire que il y a eu des expérimentations là-dessus. On a fait des tests avec des médecins spécialisés du sport, des cardiologues. Il y a une dépense d'énergie qui est énorme, qui est explosive. Même s'il y a toujours deux arbitres dans les combats gladiateurs qu'on ne voit jamais d'ailleurs dans les films, qui sont là un peu comme pour le judo, pour le sumo, c'est pour les séparer, pour leur permettre de reprendre souffle et de repartir au combat. Donc on peut estimer que ces combats-là devaient rarement dépasser 3-4 minutes, sachant qu'en plus dans les vrais combats il y avait des blessures, qu'ils devaient aussi justement gérer leurs blessures. C'était quelque chose qui était vraiment attendu, qui était un moment vraiment d'exception pour les spectateurs. Donc c'est assez bref. Oui.
C'est vraiment frustrant, hein, Christophe. On a Eric Tessier en face.
On soit resté encore
mais
des
vraiment,
heures.
Je reviens quand vous voulez.
Très bien.
J'aimerais signaler, parce qu'on en a parlé un peu avant en préparant cette émission, vraiment à tous nos auditeurs, hein, parce qu'on est vraiment concernés ici, la sortie très récente de Napoléon est revenu. Hein, c'est le premier roman d'Éric Tessier qu'on vient d'entendre, avec en 2015, dans le bureau d'un historien, Napoléon qui débarque, on se rend compte que c'est finalement lui, peut-être qu'il va reprendre le pouvoir.
Éric Tessier, merci beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine dans C'est votre jour de science. Historien de l'Antiquité attaché à l'Université de Nîmes, éminent expert des questions de gladiature. À très vite en Corse.
À très vite, avec grand plaisir.
À l'an prochain, vous êtes au programme. À bientôt, Éric.
À bientôt.
Merci, au revoir.
C'est votre jour de science dans l'actu.
Spartacus, qu'est-ce que vous avez retenu cette semaine?
Je ne sais pas comment, on connaît que lui, sinon j'aurais trouvé un surnom rapide. Non, moi pas du tout, je suis dans la bricole cette semaine, dans les sciences et la bricole, et je vais vous poser la question de savoir si vous êtes comme moi à
non,
la maison.
Jamais comme vous.
Est-ce que comme moi, alors du coup à la maison, vous avez toujours, et ça j'en suis certain, on l'a tous, un meuble calé avec un bout de carton, un bibelot, un truc bancal.
Bien sûr.
Hein, on n'y échappe pas. Alors peut-être un jour, est-ce que vous aurez vous aussi la bonne surprise, comme cet homme récemment aux États-Unis qui a apporté une pierre d'une dizaine de kilos à des chercheurs de l'Université du Michigan. Un gros caillou ramassé près d'une ferme voisine qui l'intriguait un peu depuis quelques années, mais qui lui servait surtout à empêcher l'une des portes donnant sur son jardin de claquer. Eh bien, figurez-vous, Christophe, que les géologues n'ont eu besoin que de quelques secondes pour lui dire qu'il tenait là un vrai trésor. Une fabuleuse météorite, beaucoup plus riche en nickel que la moyenne et d'une taille absolument rare. Un objet tout droit venu de l'espace, valant en fait plus de 150 000 dollars. Son chanceux propriétaire a donc choisi de remplacer sa cale de fortune, au sens propre du terme, par un petit bout de bois, de revendre sa pierre céleste et de s'acheter non pas une nouvelle porte qui fermerait, mais une belle petite maison tout entière.
Fabrice, j'ai enfin compris pourquoi vous êtes toujours en pleine forme et en bonne santé.
Apparemment.
J'ai enfin compris pourquoi. Figurez-vous que selon une étude scientifique très sérieuse, Fabrice, l'odeur des pets serait bonne pour la santé. Alors, ce sont des chercheurs hein, d'université britannique qui ont publié les résultats de cette surprenante étude scientifique. Alors, c'est le sulfure d'hydrogène permettrait de prévenir contre le cancer, les accidents vasculaires cérébraux, les crises cardiaques et même le diabète.
Vous êtes taré.
Non, pas du tout. C'est très sérieux. C'est du moins ce qu'explique un professeur de médecine d'université du Royaume-Uni. Lui, une équipe de chercheurs ont mené une étude pour prouver le bon rôle que peut avoir le sulfure d'hydrogène dans le maintien de l'activité cellulaire. Et plus exactement, ce gaz permet de maintenir l'activité des mitochondries. Alors, les mitochondries, ce sont de petites organites d'environ 1 micromètre de longueur, essentielles dans le processus énergétique cellulaire. Je ne vous fais pas de détails.
Non.
Les scientifiques ont réussi à l'isoler et ont pu tester ses effets sur des cellules malades. Vous vous décomposez. Là,
complètement, je suis complètement bouché.
Et ces dernières ont été sauvées donc par l'action régénératrice du gaz de ces mitochondries. Et comme l'explique l'un des docteurs de l'université ayant travaillé sur le sujet, ce gaz odorant naturellement produit par le corps humain pourrait permettre de grandes avancées dans le domaine de traitement de maladies. Alors Fabrice, continuez à vous en donner à cœur joie.
Je vous en prie, j'en reste bouche-pée.
Merci Fabrice.
Est-ce qu'on va encore être à l'antenne après votre chronique ou est-ce qu'il va y avoir une censure terrible?
On va voir le directeur tout de suite. À la semaine prochaine,
peut-être.
Un grand merci à Serge Jakubowski d'avoir été avec nous à la réalisation de cette émission. Bon intérêt à toutes et n'oubliez pas qu'on se retrouve aussi en podcast bleu rcfm.com.
Vous l'avez saboté.